Avant de continuer et de finir notre aspect sur la doctrine sociale de l'Église, je voudrais parler, puisque nous sommes en fin de carême, de deux choses, de deux vertus que l'on met rarement en exergue, de deux choses, de deux vertus que l'on met rarement en exergue, qui est l'humilité et la pauvreté. Je suis tombé sur quelques pages que j'ai écrites il y a quelques années sur l'humilité. Une chose dont on parle très peu actuellement, et qui pourtant est une chose importante. L'humilité est un mot très fort, une qualité que l'on ne saurait appliquer sans faire sourire. Seul le Christ a pu affirmer qu'il était doux et humble de cœur. On se dit humble serviteur d'une cause ou d'un homme, mais c'est le plus souvent pour marquer une distance qu'une disposition d'esprit. Lorsque l'on parle de l'humilité d'autrui, c'est le plus souvent pour en constater l'insuffisance, beaucoup plus souvent que pour la citer en exemple. Ce que l'humilité n'est pas, avant tout, l'humilité n'est pas un mensonge. Premièrement, l'humilité n'est pas de se parer de défauts imaginaires. C'est la fausse humilité du médiocre, que nous n'avons que trop tendance, très souvent, à être. Les exemples sont multiples et quotidiens. Affirmer que l'on joue mal au bridge, au tennis ou bien d'un instrument, afin de susciter l'admiration de tous après avoir fait étalage de son talent, n'est qu'une pitoyable comédie. Prétendre à ceux qui vous félicitent du brio d'une exécution, d'une musique, d'une conférence, et pourtant je n'étais pas en forme, alors qu'au contraire on se sentait en état de grâce, ne vaut pas mieux. Les dons reçus du Seigneur sont une responsabilité, et le nombre de talents ne sera pas demandé, le même nombre de talents ne sera pas demandé à chacun. Les saints se sont attachés à faire fructifier leurs dons tout en évitant d'en faire étalage, mais sans les nier. Ni saint Paul ni saint Augustin n'ont prétendu être de piètres orateurs, ni saint Éloi mauvais orfèvre, ni saint Louis roi de pacotille, ni saint Thomas plus ignorant que ses élèves. La deuxième chose, la fausse humilité, de cacher des qualités ou des possibilités pour ne pas avoir à les utiliser. De la vanité souvent naïve, on tombe dans l'égoïsme pur et simple. Que penser de quelqu'un qui prétendrait être incapable d'un service important, que ce soit dans le domaine intellectuel ou matériel, alors qu'il pourrait le rendre très correctement? Qu'on lui demande « Qui pourrait me traduire cette lettre que j'ai reçue dans une autre langue? Qui pourrait réparer cet appareil ?» On répond « Oh non, 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 pas moi, je ne suis pas assez qualifié. » C'est de la paresse. Certes, il faut éviter la présomption, ne pas hésiter à signaler ses limites, mais ne pas exercer ses dons alors qu'ils seraient utiles à autrui relève de la lâcheté égoïste. Il en est de même de certains chefs qui renâclent à accomplir des devoirs pourtant liés à leur tâche, comme de savoir parler à leur subordonné. Même s'il craint d'être insuffisant, son devoir est de se montrer et non de se réfugier dans un « je ne sais pas parler en public », ce qui cache à la fois orgueil et paresse. Après tout, personne ne l'a forcé à être chef. Lorsqu'on accepte un poste et toutes ses grandeurs, il faut aussi en accepter toutes les servitudes. En allant au fond des choses, ces pseudo-timides sont de grands orgueilleux et d'insondables égoïstes. Ensuite, ne pas prendre ses responsabilités. Système de Voltaire, qui signait d'un pseudonyme ou se refusait de signer la plupart de ses pamphlets, se réservant d'en dévoiler l'auteur quand il était sûr du succès. Ce genre de déloyauté est courant dans une certaine presse qui lance des rumeurs parfois ignobles à visage couvert, se contentant de dire qu'il s'agit de bruits d'origine inconnue alors qu'elle en est l'auteur. J'allais dire l'inventeur. Affirmer d'un air cauteleux qu'on a le devoir de transmettre ses menus ordures au nom de je ne sais trop quel droit à l'information, et pire que se moquer du monde, c'est un authentique péché. Ce qu'est l'humilité? Avant tout de rendre témoignage à la vérité. Cette vérité qui est si ignorée et si foulée aux pieds de nos jours. Premièrement, ne pas s'enorgueillir des dons que l'on reconnaît avoir reçus. L'exemple restera toujours la Sainte Vierge. À Sainte Élisabeth qui l'a saluée, elle n'a pas répondu qu'elle n'était qu'une pauvre pécheresse. Sainte Élisabeth aurait pu le dire. Mais tout en reconnaissant la Sainte Vierge Marie, tout en reconnaissant sa bassesse de servante, elle n'a pas hésité à affirmer « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Ce qui, soit dit en passant, est paradoxal quand on rappelle qu'il s'agit d'une femme restée veuve assez jeune, qui a fini recueillie par un ami de son fils, lequel était condamné à mort, lequel, après une condamnation à mort, a été exécuté d'une manière ignominieuse. Enfin, ça, c'est. Elle voyait son. Effectivement, on la déclare bienheureuse sur un plan bien supérieur. L'humilité, c'est reconnaître que nous ne sommes que les dépositaires des dons que Dieu nous a confiés. Saint Paul écrivait que nous ne sommes que des intendants, et d'ajouter que l'on demande à un intendant d'être fidèle. C'est là notre désir d'humilité, au cas où nous en aurions vraiment, et c'est là où cette humilité trouve ample manière à s'exercer. Saint Paul ajoutait d'ailleurs que les dons de l'esprit sont différents. Il y a le don des langues, il y a celui qui l'interprète, il y a le don de la charité, il y a le don de parler. Ce qui veut dire que la prétendue égalité dont on nous ressasse les oreilles n'est qu'un mythe inventé pour les besoins de la cause. La deuxième chose de l'humilité, c'est reconnaître ses défauts, ce qui est tout à fait autre chose que de taire ou de minimiser ses qualités. Le premier stade est de reconnaître ses torts, ses erreurs. On peut y trouver quelque avantage, car agir de la sorte et réfléchir sur ses échecs peut nous faire progresser de façon spectaculaire. Les gens qui ont toujours raison ne font jamais de progrès, pour cela même qu'ils ont toujours raison. Faire un bilan, un examen de conscience, est la première condition d'une amélioration effective. Et parmi les défauts, il faut citer en premier lieu ses négligences, voire ses lâchetés. Point des besoins de le faire publiquement, voire théâtralement. Saint Benoît recommandait à ses moines de ne pas pleurer ses péchés trop bruyamment de peur de déranger les autres moines. Il est vrai que c'était en Italie. Au fond de son cœur, il faut toutefois reconnaître que nous n'avons pas toujours fait tout ce que nous pouvions et que nous n'avons pas toujours agi avec tout le soin qu'on aurait pu y mettre. On lit dans un petit livre charmant vendu dans les monastères, La vie du petit Saint Placide, on lit cette phrase aussi simple que profonde, « Il n'y a qu'un angle droit qui est la perfection » et des milliers d'angles obtus qui sont la médiocrité. Ensuite, rester à sa place. Les citations dans cet ordre pourraient être multiples. Citons le psalmiste. « Seigneur, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, mon regard ne fait pas l'arrogant, il ne recherche pas les grandeurs, ni les choses trop élevées pour moi. Non, je tiens mon âme dans le calme et la tranquillité tel un enfant qui repose sur le sein de sa mère. » C'est dans le psaume 130. On peut citer aussi ce mot de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il faut savoir fleurir là où Dieu vous a planté. Ou ce conseil de Saint Jean Berchmans, qui était au début du XVIIe siècle, donné comme modèle à la jeunesse, ne pas chercher à faire des choses extraordinaires, mais s'acquitter des choses ordinaires avec un soin extraordinaire. Et ça, c'est très profond. C'est une des grandes leçons de la vie monastique. En remettant sa volonté dans les mains du supérieur, on se retire la possibilité de juger de la justesse de son choix. Il reste que le risque de ne pas avoir été assez aidé subsiste. Saint Bernard ne s'est jamais enorgueilli d'avoir été appelé au conseil des plus grands de ce monde. Il gémissait sur sa faiblesse qui l'empêchait d'aller à Dieu aussi vite qu'il aurait voulu s'il n'avait pas été retenu par sa nature pécheresse. Et puis, en fin de compte, se souvenir que nous ne sommes que des serviteurs inutiles, car Dieu peut faire sortir de ses pierres des enfants d'Israël, comme a dit le Christ. Nous ne valons surtout que par l'amour que Dieu nous porte. Nous sommes tous un peu ce disciple que Jésus aimait. Le tout est d'être le moins indigne possible de cet amour. Je terminerai par ces quelques lignes que j'ai lues dans le dernier numéro de l'Homme Nouveau au sujet de la pauvreté. Chaque jour, la télévision nous fournit notre lot d'informations sur les procès d'hommes politiques, de chefs d'entreprise, pour abus de biens sociaux et de bien d'autres choses. Cela doit-il étonner dans une société dont les buts proclamés sont de réussir et de posséder? Si le but de l'existence est uniquement la réussite, comment ne pas la rechercher par n'importe quel moyen? Si le but de l'activité humaine est seulement de posséder, comment ne pas chercher à posséder toujours plus? Et comment, selon un tel idéal, la mort n'apparaîtrait-elle pas comme l'absurdité suprême qui annihile les plus belles réussites et prive de tous les biens? Ainsi qu'on l'a écrit, on n'a pourtant jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Sachant que Jésus affirmait « heureux les pauvres » sans pour autant inviter à vivre comme un mendiant, nous pourrions paraphraser ainsi ce qu'a dit saint Jean Chrysostome. « Je n'empêche pas de réussir, mais j'interdis de le faire en écrasant les autres et sans mesure. Il ne convient pas de rechercher l'échec. Possède, mais modérément. Recherche les biens qui passent non comme une fin en soi, mais comme les moyens qui te permettront d'acquérir la liberté nécessaire pour te préoccuper des biens qui ne passent pas. Bien, la prochaine fois, le mois prochain, je recommencerai à parler de l'économie et de cette question de savoir si véritablement c'est l'économie au sens technique du terme qui doit commander toute notre vie ou bien si nous pouvons chercher mieux.